D'accord, on continue. On est arrivé à 1 Corinthiens 3. On a regardé dans ces deux chapitres, surtout Paul, qui parle beaucoup d'unité. L'unité de l'Église, c'est quelque chose de très important, car s'il y a l'unité dans l'Église, nous pouvons marcher, car c'est à cela que le Seigneur il nous a appelés. Ce soir, nous allons parler un peu de la maturité des chrétiens. Et il faut savoir que la maturité se mesure à la qualité de notre attitude envers les autres, envers ceux avec lesquels nous sommes dans l'Église. C'est de la façon dont nous nous comportons envers nos frères et sœurs, c'est là qu'on voit la maturité. Et on va voir dans ce chapitre 3, le verset 1 et 2, et on va voir les problèmes de l'immaturité. Pourquoi est-ce, quel est le problème de l'immaturité? Pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont pas, qui ne possèdent pas cette maturité? Lisons les versets 1 et 2. 3. Alors, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Pourquoi? Parce que vous êtes encore charnel. Voilà le problème de l'immaturité. On a déjà vu que, on a parlé de la sagesse des hommes, hein, qui est infiniment plus faible et plus petite que la folie des dieux. Hein? On l'a vu dans le chapitre précédent, hein? La folie pour les hommes, la croix, mais pour nous, c'est la puissance pour être sauvés. On a vu aussi que la sagesse de Dieu est source de compréhension et de croissance. Voilà pourquoi nous devons demander la sagesse à Dieu. Parce que Dieu, il désire nous voir croître, il désire nous voir mûrir. Et justement, le problème ici à Corinthe, quel était? C'est que les Corinthiens, ils n'écoutaient pas Dieu. Ils n'écoutaient pas Dieu. Leurs oreilles spirituelles, elles étaient fermées. On a vu la semaine dernière Esaïe plusieurs fois. Il nous a dit dans ce verset qu'ils avaient les oreilles bouchées, qu'ils n'entendaient pas ce que les choses. Pourquoi ils étaient comme ça? En raison de leur foi qu'ils avaient dans leur grande connaissance, dans leur savoir parler. Dans les choses, ils croyaient être bien, bien mûrs. Mais Paul, justement, il leur dit, comme on vient de dire, j'aurais voulu vous dire des choses plus sérieuses, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que vous êtes charnels. Parce que vous êtes charnels. Il ne leur a pas pu parler des choses profondes et sages qu'il aurait pu leur amener à cette maturité dont Dieu désire que chaque enfant de Dieu il puisse avoir. Et Paul il les qualifie même de des hommes charnels. Des hommes charnels. Ça veut dire quoi, des hommes charnels? C'est des hommes qui sont contrôlés par la chair, qui les maintient toujours dans leur ancienne vie, dans leurs anciennes habitudes du passé. Leur vie, il n'est pas passé au crible de Dieu. C'est ça l'homme charnel. Il demeure primaire, et encore, comme j'ai dit, comme des enfants du Christ. Mais nous ne devons pas rester des enfants. Vous savez bien que si on reste un enfant, on n'arrive pas à comprendre, à cerner. Chaque fois, les enfants, ils disent « Papa, je ne comprends pas, je ne sais pas, qu'est-ce que j'aime, je ne sais pas. » Pourquoi? Parce qu'ils sont des enfants. Et Paul, justement, il dit « Vous êtes restés des enfants, vous ne pouvez pas recevoir la nourriture solide. Je vous avais encore besoin du lait. »
Mais le but pour un enfant, c'est pas de rester au lait tout le temps.
Exactement. Paul, il voulait les amener, comme je vous l'ai déjà dit, hein, il y a des chrétiens qui disent, voilà, j'ai reconnu mon péché, j'ai accepté Jésus-Christ, je suis passé par la nouvelle naissance, et ça me suffit. Non. Parce que si on s'arrête là, on est des bébés. Il y a d'autres choses à connaître, des choses que Dieu a révélées dans sa parole. Et c'est à nous de les connaître, parce que nous sommes des enfants, mais chaque enfant, il doit croître. Il doit arriver à une maturité. Et cette tendance de rester enfant de Dieu, d'être charnel, comme Paul les qualifie. Et il nous est dit dans Galates 5, verset 16 à 17, il dit, « J'ai dit donc, parce que les gens charnels, ils marchent selon la chair. » Voilà pourquoi Paul lui dit aux Galates, « J'ai dit donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point le désir de la chair. » Comment est-ce qu'on peut battre cette chair? Comment est-ce qu'on peut ne pas écouter, ne pas se laisser porté par le désir de la chair, en ayant l'esprit dans notre cœur, en écoutant l'esprit, en se laissant diriger, en marchant selon l'esprit. Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit, il en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et voilà pourquoi il nous dit « marchez selon l'esprit ». Les Corinthiens, Paul lui a dit « vous êtes encore charnels » parce qu'ils ne marchaient pas selon l'esprit. On l'a vu cette semaine-là, qu'il y avait des clans, il y avait des divisions, il y avait du péché. Et pourtant, c'est une église remplie de dons, mais ils ne marchaient pas selon l'esprit. Ceux qui comprennent ce que la croix nous a apporté et qui l'appliquent dans leur propre vie. Ces gens-là, ils marcheront avec l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils vont se laisser conduire par l'Esprit. Ils vont laisser de côté tout ce qui est du passé. Ils vont vivre une nouvelle vie. Il nous l'a dit, la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est ça. C'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement. Les choses qu'on faisait avant, on ne les fait plus. Notre façon de vivre est différente. Notre façon de parler est différente. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important d'être démarché selon l'esprit. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a un débat qui fait rage dans les églises. Hein? Et plusieurs églises, des responsables, ils considèrent que le 1 Corinthiens 2, 14 jusqu'à 3, 2, ils décrivent trois types d'hommes, ou de chrétiens si vous voulez. Non, d'hommes c'est mieux, parce que c'est l'homme naturel, on ne peut pas dire un chrétien naturel. Donc, trois types d'hommes, c'est l'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. Et ça, c'est Dieu lui-même qui les caractérise. Il distingue ces trois types d'hommes. L'homme naturel ou animal. C'est ça qui nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme il est dit dans 1 Corinthiens 2, on l'a vu, hein, qui ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'il n'a pas connu Dieu. C'est ça l'homme naturel. Il n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'a pas connu Dieu, et donc il ne comprend pas ce que Dieu il dit dans sa parole. Ensuite, il y a l'homme spirituel qui vit et qui marche selon la parole. Pourquoi? Parce qu'il est régénéré par le Saint-Esprit. Sinon, on ne pourrait pas marcher. Sans l'aide de l'Esprit, nous ne pourrons pas. Alors, comme c'est l'Esprit de Dieu, nous sommes l'homme, c'est l'homme spirituel. Et ensuite, il y a l'homme charnel. L'homme charnel, il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Mais il s'affectionne aux œuvres de la chair. Comme il nous est dit ici au verset, chapitre 3, 1, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. C'est-à-dire qu'ils étaient trop imbibés d'eux-mêmes, de leurs connaissances, de leur savoir-faire, de leurs dons, qu'ils ne faisaient pas attention à ce qui y était tout autour de ces choses-là. Voilà pourquoi c'est des êtres charnels. Et d'autres, il y a d'autres églises qui disent non, il y a seulement deux types, le spirituel et le charnel. Parce que si on est spirituel, on est dirigé par l'esprit. Et le chrétien charnel, on l'appelle le chrétien charnel, on vient de le voir. Qu'est-ce que c'est un chrétien charnel? C'est quelqu'un qui se laisse diriger par la chair. Mais si tu es chrétien, tu dois être dirigé pas par la chair, mais par l'esprit. Voilà pourquoi il y a cette confrontation. Et il y en a beaucoup qui disent « Je suis un chrétien charnel, hein, comme les Corinthiens. » C'est comme ça, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Voilà pourquoi Paul, il les reprend. Il a dit « Je ne peux pas vous enseigner, je ne peux pas vous donner de la bonne nourriture. » Ça, c'est Pierre qui le disait aussi. « Je ne peux pas vous donner de la bonne, parce que vous êtes des enfants. On ne peut pas donner à un enfant une beefsteak, n'est-ce pas? On ne peut pas. Parce qu'il a passé à l'enfant, il n'a pas encore les dents et tout ça. Donc, la seule chose qu'on peut donner à un enfant, c'est quoi? C'est du lait. » Et Paul, il dit aux Corinthiens, « À vous, c'est pareil. » J'ai à vous donner que du lait parce que vous ne pouvez pas recevoir les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que vous marchez selon la chair et pas selon l'esprit.
Aldo, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est que le chrétien spirituel, si tu me donnes du lait, ça nourrit pas beaucoup non plus. Hein.
Oui, non, mais la seule différence, c'est que l'homme spirituel, ça nous arrive de marcher selon la chair. Ouais. Mais nous revenons tout de suite. C'est pas comme ceux qui disent ben, « je suis charnel, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux y faire ?» Non, si on est des hommes spirituels, dirigés par l'esprit, si nous marchons par l'esprit, nous ne devons pas nous laisser contrôler par la chair. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit dans Romains, regardez Romains, Romains 6.
Mais ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on ne va pas parfois être charnel, mais on ne va pas se complaire dans cette attitude.
Voilà.
Donc celui qui est charnel, je suis charnel, c'est bon.
Il se complaise là-dedans. Tandis qu'un homme spirituel, parce qu'il est dirigé par l'esprit, et l'esprit il est là, il te dit, Aldo, non, non, ça ne va pas ça. Tu n'es pas en communion avec Dieu, reviens. L'homme, le chrétien charnel, il te dit, je suis comme ça, il ne sait même pas. Ou sinon il tombe toujours dans le même péché. Il court un peu comme ils font les catholiques. Hein. Ils font des péchés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont et ils se confessent. Et ils continuent. Voilà, mais c'est un peu ça qu'il nous dit Paul dans Romains 6. Regardez ce qu'il dit, Paul dans Romains 6, les versets 3 à 10. 6, 3 à 10. Et il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que nous sommes morts. L'Aldo qui existait avant, il est mort. Nous devons nous considérer comme morts. Et si nous nous considérons comme morts, la chair, il n'a plus aucun pouvoir sur nous. Parce qu'on est mort. Ça veut dire quoi qu'on est mort? Qu'on ne réagit pas aux tentations, aux épreuves. Et il continue. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Normalement, notre vieil homme a été crucifié. C'est-à-dire que nous pouvons le contrôler parce qu'il est mort. Nous devons nous considérer comme morts. Mais le fait, c'est un chrétien charnel, il te dit, non, je ne suis pas mort, je suis vivant. Et donc, il se laisse contrôler par la chair. Voilà pourquoi c'est une nouvelle vie, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Ça, savez, lorsqu'on dit « je suis esclave du péché », c'est que je pêche en chaque occasion. Une petite tentation, je tombe dedans. Pourquoi? Parce que je suis esclave du péché. Le péché, il me dirige. Chaque fois qu'il se présente, j'y tombe.
Ça veut dire qu'en fait, on va pécher, mais quelque part, on n'est plus obligé de pécher.
Non.
C'est plus l'obligation. Comme vous allez dire,
non. Jean, il nous dit qu'un chrétien, il se garde lui-même. On n'a même pas besoin de... On a besoin de l'aide de l'Esprit, mais si on garde dans notre esprit que nous sommes morts avec Jésus-Christ, que nous ne sommes plus esclaves, nous pouvons. Mais c'est ça que nous, les hommes et l'humanité, ils n'aiment pas beaucoup de dire « je suis mort ». Non, je suis mort. Ça ne vous est pas arrivé lorsque vous témoignez de dire à quelqu'un « tu es mort ». Ah non, je suis mort, je suis vivant. Mais tu es mort par rapport au Dieu. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant, hein, ce mot-là, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Plus de pouvoir sur lui et plus de pouvoir sur nous. Car nous n'avons plus peur de la mort. Car il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort, une fois pour toutes, une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie. Voilà pourquoi c'est les chrétiens charnels, ça ne peut pas. Mais c'est une, on appelle ça comme ça, c'est celui qui est passé par la nouvelle naissance, qui connaît Dieu, mais il se laisse toujours diriger par la chair. Et il s'y plaît. Et pourtant, la chair, on vient de le dire, c'est inimitié avec l'esprit. Et si nous sommes nés de nouveau, nous avons l'esprit de Dieu. Il ne peut pas y avoir deux choses dans notre cœur, ou l'un ou l'autre.
Mais ils sont sauvés, mais vous savez si libres.
Mais encore une fois,
ils sont sauvés.
Ils sont sauvés, mais ils ne recevront ils ne recevront aucune récompense au tribunal de Christ. Tu comprends comment c'est? Ils sont charnels, ils ne vivent pas. Ils sont des enfants en Christ.
C'est ce qu'on disait avant, ils seront sauvés, mais comme au travers du feu.
Exactement. Parce qu'il y en a beaucoup qui, déjà, qui sont passés par la nouvelle naissance, voilà, qui lorsque le Seigneur Jésus il va prendre, il ne le prendra pas à cause de leur fidélité, de leur accomplissement, ce que Dieu a dit, mais parce qu'ils ont mis leur vie entre les mains de Jésus-Christ. C'est comme à travers le feu. Oui, il y a le feu, on te prend et on te met à l'extérieur du feu. Mais le feu, il est là pour les autres. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important de se dire. Et Paul, voilà, Paul il leur dit, j'aurais voulu vous parler de ces choses-là, mais vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi il leur dit dans 2 Corinthiens 13, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Et l'épreuve ne peut pas être un échec pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, si vous vous considérez, si notre Église se considère, en exemple, comme l'Église de Corinthe, Paul nous dit, examinez-vous. Est-ce que vous croyez que vous êtes parmi les chrétiens spirituels ou les chrétiens charnels? Les chrétiens spirituels, ils seront loués par le Seigneur. Mais si vous êtes un chrétien charnel, vous ne recevrez rien. Et vous savez, hein, s'il n'y a pas Christ, s'il n'y a pas de fruits dans notre propre vie, c'est qu'il n'y a pas Christ. C'est-à-dire, Christ, il est à nous, mais nous ne faisons rien avec lui. Nous ne faisons rien pour lui. Et c'est ce qui compte, je le dis, toutes les œuvres qu'on peut faire, nous devons les faire pour une seule et unique personne. Et c'est pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Jésus-Christ, et pas pour notre propre gloire. Voilà pourquoi c'est très important. Et vous savez, il est parfois impossible en Église d'aller très loin. Pourquoi? Parce qu'elle se refuse à grandir. Elle se refuse à grandir. Je ne dis pas cette Église ici, mais il y en a tellement d'Églises. Il y a des études bibliques, il y a des conventions, il y a des conférences et tout ça. Les gens, ils ne vont pas. Pourquoi? Ils refusent de grandir. Ils disent, je suis enfant de Dieu, j'ai Jésus-Christ dans ma vie, ça me suffit. Je ne vais pas aller plus loin. Et Paul, il en dit à Corinthe, si vous restez comme ça, vous êtes des enfants, vous êtes des enfants. Et je ne peux pas vous donner toutes les explications, toute la connaissance dont le Seigneur il m'a donné. C'est pour ça que si on est un chrétien spirituel, nous devons donner l'envie aux gens du dehors de venir pour faire la connaissance de ce que Dieu il a fait pour nous, de ce que Dieu il fait pour nous et de ce que Dieu a préparé pour nous. Mais si nous nous limitons seulement de dire, ben voilà, j'ai reconnu mes péchés, Christ est mon sauveur, et voilà, je ne grandis plus. On ne peut pas.
Il y a des femmes aussi, parce que bon, le lait, ça n'a pas grand goût, alors que là, la nourriture a plus de goût, donc la vie est plus...
C'est comme toi que tu es dans l'enseignement, hein. Si quelqu'un il n'apprend pas, hein, il n'avance pas, n'est-ce pas?
Ah, il ne progresse pas.
Hein? Ah, oui. Il ne progresse pas.
Ça, c'est obligé.
D'après le verset 7, c'est-à-dire que si quelqu'un il est mort spirituellement, c'est-à-dire qu'il est mort avec Christ. D'accord? Si quelqu'un il a un esprit charnel, lorsqu'il est mort, ses péchés sont déclarés.
Il est mort sur le moment. Hein? C'est sur le moment. C'est-à-dire qu'il a une nouvelle naissance. Mais une fois qu'il est passé par cette nouvelle naissance, il ne se laisse plus diriger par l'esprit. Au lieu de changer complètement sa vie, il continue à vivre la vie qu'il faisait avant. Ou aller au cinéma, ou sortir avec des femmes, ou faire, je ne sais pas moi, à faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et pourtant, il est chrétien. Il est chrétien. Voilà pourquoi il est parfois impossible à l'Église de grandir, d'aller très loin. Pourquoi? Parce qu'elle se refuse de grandir. Regardez ici. Ici, on est composé d'une centaine de personnes, et voilà, il y a des études, hein, il y a des réunions de prière, et on est combien? 3, 4? Il y a ceux qui travaillent, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, et qui ne veulent pas grandir. S'ils ne participent pas, c'est parce que ça ne leur intéresse pas. Ils sont revenus à leur ancienne vie en se disant, tiens, chez les catholiques, s'ils étaient catholiques, ou sinon chez moi, j'étais habitué d'aller les dimanches à l'église, bon, je vais que les dimanches. Et encore, il ne faut pas que les cultes durent trop longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui m'attendent à la maison, j'ai rendez-vous, ça et là. Voilà, on dit à Dieu, oui, je vais louer Dieu, mais pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, parce que j'ai des choses à faire. Voilà pourquoi l'Église ne peut pas grandir comme ça. Hein? Et pour avoir une meilleure compréhension du plan de Dieu, pour être des enfants mûrs, hein, qui sont devenus des enfants qui comprennent, des enfants parfaits, il faut étudier la parole. Et si on est des enfants mûrs, si on a cette maturité, toutes les choses qu'on a vues dernièrement, chapitre 1 et 2, toutes les divisions, toutes les causeries, tous les murmures et tout ça, ils ne seront pas là. Parce qu'on est mûr, parce qu'on comprend, on a cette maturité, on a la sagesse. Ces Corinthiens, ils croyaient posséder toutes ces choses-là, mais Paul, il les corrige. Comme quoi, la spiritualité, comme quelqu'un l'a dit, la spiritualité ne se mesure pas à la quantité des dons. Il ne se mesure pas à la quantité des dons, à la qualité intellectuelle des raisonnements. Non, elle se mesure sur les concrets, sur les concrets des relations au sein du corps de Christ. C'est là qu'on montre notre spiritualité, c'est là qu'on montre notre maturité, parce que on fait grandir nous-mêmes, mais en même temps on fait grandir le corps de Christ auquel nous participons. Et au verset 3 et 5, dans 1 Corinthiens 3, on vient de lire, on voit les signes de l'immaturité. Hein? On voit les signes de l'immaturité. Lisons ce verset, 3 à 5. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que c'est donc qu'Apollos et qu'est-ce que c'est que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Paul, pour montrer leur immaturité, hein, il leur a montré que le type de relations qu'ils avaient dans l'Église. C'est-à-dire que les Corinthiens, ils s'attachaient à des personnes, pas au Seigneur. En effet, il dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, et la jalousie et la discorde, c'est la chair.
Donc, est-ce que tu sais, tu as certaines églises, quand tu as un pasteur qui est là depuis très longtemps, quand il s'en va, il y a plein de gens qui s'en vont avec lui.
Exactement.
Et que c'est un peu ce genre-là, parce que
donc,
ils sont attachés à leur église. Mais...
Des clans. Ouais. Il y a des clans. On peut dire, Aldo, il prêche, je ne viens pas. Olivier, il prêche, je ne viens pas. Je ne l'aime pas. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait lorsque quelqu'un il prêche? Normalement, il apporte le message de Dieu. Il qualifiait les gens, ces gens-là. Il disait, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Hein? Il y avait des petits clans, des sous-groupes autonomes qui s'attachaient à la personne au lieu de s'attacher au Seigneur. Voilà pourquoi ils étaient charnels. Ils étaient chrétiens, mais ils s'attachaient aux personnes. Hein? Mais ni Apollos ni Paul, ils n'ont jamais essayé de faire cela. Jamais. Mais ces clans-là qui étaient dans l'église de Corinthe, ils étaient de ces clans-là. Et en plus, il y avait ces clans qui s'affrontaient. Ils s'affrontaient. Ils rivalisaient en spiritualité. Comme l'a évoqué dans 1 Corinthiens 1:12, il disait de Apollos. Apollos était éloquent. Pierre, c'était des conservateurs. Et ceux de Paul, des rénovateurs. Et ceux de Christ, c'était des puristes. C'est-à-dire les puristes, c'est ceux qui gardaient ce que Christ disait. Vous savez, à certains moments, les Vaudois, ils étaient appelés les puristes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement attachés à la parole de Dieu qu'ils ne laissaient rien passer. Et on appelait ça les puristes. C'était la pure doctrine de Jésus-Christ. Et ceux qui étaient attachés à Paul, parce qu'il prêchait la vraie doctrine. Apollos, c'était en grec, c'était quelqu'un qui savait parler. Paul, Pierre, c'était les conservateurs. Hein? Vous savez qu'à un certain moment, Paul, il a repris Pierre. Hein? Parce qu'il voulait toujours conserver... prêcher qu'aux juifs. Hein, et c'est là que Dieu lui a montré les animaux, vous en souvenez, toutes ces choses-là. Et vous savez, toute compétition dans une église, il révèle une immaturité. Lorsqu'il y a des divisions, lorsqu'il y a des jalousies, lorsqu'il y a des discordes, ça montre l'immaturité de l'église. Toute compétition, Si dans une église il y a de la compétition, c'est l'immaturité sérieuse. Et Jacques, il dit la même chose, Jacques 3, il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse ?» Par une bonne conduite, comment? Comment est-ce qu'on a une bonne conduite? Par la douceur et la sagesse. C'est chapitre 3, 13 à 18. Hein? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle. Elle est terrestre, charnelle, même dit diabolique. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui fait tout ça. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Les fruits de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Et c'est où il y a de la discorde et de la jalousie. Ils ne sèment pas la paix. Hein? Qui c'est qui peut semer la paix? Mais c'est ceux qui ont la paix vraiment dans leur cœur. Hein? Et il dit que les signes d'une maturité, quel est le signe d'une vraie maturité des chrétiens? Il le dit ici, faire des œuvres empreintes de douceur et de sagesse. De douceur et de sagesse. Oh, on a du mal à manifester cette douceur. Encore moins de sagesse si on est charnel, hein? Encore moins. Mais si on a ces deux choses, ça montre que nous sommes mûrs, que nous l'avons. Et aussi, signe de maturité, refuser la jalousie amère, des rivalités, des mensonges. Les refuser, car nous savons que ces choses ne viennent pas d'en haut, mais elles viennent du diable, d'en bas. Hein? Et quelques des compétitions possibles dans une église, j'en ai pris quelques-uns. Hein. Comment est-ce qu'on peut être compétitif dans une église? C'est signe d'immaturité. Hein. Les désirs de se montrer par des paroles ou des actes meilleurs que les autres. On prie longtemps le dimanche matin, non parce que c'est un désir ou une volonté, mais parce que j'aime bien me faire remarquer. Ah, Olivier, prie bien. Ah, il prie bien, lui. Est-ce que c'est des choses à dire? Ou des gens, lorsqu'ils président ou ils font autre chose, hein, je n'ai pas aimé. Mais lorsque quelqu'un préside, lorsque quelqu'un prie, il met tout son cœur, il donne tout ce qu'il peut. On n'a pas le droit de dire à celui-là, il fait ça pour esprit parti, là. Les désirs de se montrer. C'est ça aussi, les désirs de se montrer par des paroles, des actes meilleurs que les autres. On est autoritaire dans les réunions de l'Église, lors de l'Assemblée générale, pour faire passer notre point de vue. Pas de régler les choses selon l'esprit qui nous dirige, mais notre propre. On critique les autres, on juge les autres. Toutes ces choses-là, lorsqu'il y a de la compétition, il y a de l'immaturité. Ayons ça au plus profond de notre esprit. Les signes de la maturité, les signes que quelqu'un est mûr, on le voit dans les versets 6 à 9. Regardez, signes de la maturité, 6 à 9. Il dit, j'ai planté Apollos arrosé, mais c'est Dieu qui fait quoi? En sorte que ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Quel est un signe de l'immaturité? L'abnégation. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai fait les choses pour Christ, pas pour les beaux yeux du pasteur ou du conseil ou de l'assemblée. C'est ça que Paul, il donne une ébauche de cette chose-là au verset 5. Il dit, les hommes qui participent à l'œuvre de Dieu, quel que soit le travail qu'il fait, il est un serviteur. On est des serviteurs. Et ici, le mot serviteur, ce n'est pas le mot grec doulos, que ça veut dire esclave, mais c'est le mot diakonos. C'est là qui vient le mot diacre. Les diacres, ils sont des serviteurs. Serviteurs au sens d'employés. Ces employés que nous sommes, ils ne sont que des instruments. Nous sommes que des instruments. Ces serviteurs, ils ont des rôles différents. Ils ont des rôles différents. On n'est rien de plus que des serviteurs. On est des administrateurs du mystère de Dieu. C'est nous qui nous sommes au service de Dieu. D'ailleurs, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. C'est Dieu qui fait quoi? Nous sommes juste un instrument.
C'est-à-dire, ça vient déjà dans les assemblées ou à l'église, on aura toujours des corps, parce que je ne me rappelle pas exactement dans quel verset.
Mais justement pour ça, il dit, parce que ici Paul, il reprend les Corinthiens parce qu'ils croyaient être au max de leur intelligence, avec tous ses dons. Et Paul, il leur dit, voyez, regardez-moi, moi je suis Paul. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste planté, j'ai juste évangélisé. Apollos, pareillement, mais celui qui fait croître, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai fait rien. Je suis juste un serviteur. L'efficacité, il dépend de Dieu. Ce que Dieu demande de nous, en tant que serviteur, c'est la volonté de le faire. Dieu, il nous a sauvés pour que nous puissions faire sa volonté en apportant la parole tout autour de nous. Nous avons juste apporté la parole. Nous ne convertissons pas les gens. C'est Dieu qui fait tout. L'important pour nous, c'est d'annoncer, comme il disait Ézéchiel. S'ils croient ou ils ne croient pas, s'ils acceptent ou ils ne l'acceptent pas, ce n'est pas notre problème. Nous sommes des serviteurs. Dieu nous a sauvés pour que nous apportions la parole. Après, s'ils acceptent ou ils n'acceptent pas, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend d'eux. Et quels sont? Et ici, il nous le dit, hein, et Christ doit être le centre de notre vie. Et pas le contraire. Lorsqu'on chante ou on fait autre chose dans une église, on le fait pour la gloire de Christ. Pas pour être vu. L'exigence dans nos motivations, exigence dans la qualité aussi. Nous devons être motivés. Il nous faut toujours privilégier une attitude d'équipe, pas le travail en solo. Le travail en solo, ça n'existe pas. Paul dit, moi j'ai planté, Apollos il a arrosé, mais c'est Dieu qui fait quoi? C'est ensemble. Paul, lorsqu'il avait décidé de partir et faire un voyage missionnaire, la première chose qu'il faisait, il s'est choisissait une équipe. Parce que la mission, être missionnaire, c'est travailler en équipe. Pourquoi il n'a pas voulu Marc à un certain moment? Parce que Marc, il était en voyage missionnaire. Et qu'est-ce qu'il a fait, Marc? C'est lui qui a écrit l'Évangile. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? À un certain moment, il a dit, j'en ai marre, je vous quitte. Voilà. Et il les a quittés. Mais au deuxième voyage, Paul dit à Barnabas, allez, on part. Et Barnabas, il a dit, on prend Marc. Il a dit, non, pas de Marc. Il nous a lâché une fois, il va le faire encore une fois. Et c'est là qu'ils se sont partagés, divisés. Hein? Vous connaissez l'histoire. Hein? Barnabas, il a pris Marc et Paul, il est parti avec. Mais la première chose que Paul faisait, il se choisissait une équipe. Pourquoi? Parce qu'on doit travailler en équipe. Chacun il a son propre rôle, chacun il a son propre mission. C'est comme dans une église. On est encore.
Mais quand il envoie les disciples, donc il les envoie par deux. Il les envoie pas tout seul.
Exactement. Chacun de nous, il a son rôle à faire. Et il y a qui font quelque chose, l'autre en fait un autre. Et en mettant toutes ces choses-là, ça fait la bonne nouvelle. On ne peut pas tout faire nous-mêmes, parce qu'on va être épuisé. Et Dieu ne désire pas ça. Voilà pourquoi il nous dit de travailler en équipe. Vous savez, lorsque je suis venu ici, il y a 10 ans, hein, j'étais à Paris, je suis venu ici et j'ai dit, bon écoutez-moi, moi je ne vais pas travailler seul. Moi je suis là en tant que pasteur, en tant pour apporter les études, pour aussi coopérer, aller évangéliser et tout, mais j'ai besoin de vous. Vous me demandez de faire la réparation ici, là, 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 là. Je leur ai dit, je ne sais pas le faire. J'ai besoin que quelqu'un d'autre soit là. Moi, je m'occupe de spiritualité, apporter les messages, les enseignements. Pour les autres choses qui concernent l'Église, j'ai besoin de vous. Je ne travaille pas tout seul. Vous en souvenez, les beaux-pères à Moïse. Il lui a dit ça. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Moïse? Tu es en train de te fatiguer. Tu ne peux pas continuer comme ça. Choisis-toi des hommes fidèles et tu leur donnes les charges. Si la charge est trop lourde pour eux, ils vont venir vers toi. Mais travaille en équipe. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Et il nous le dit. Pourquoi? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, co-ouvrier ou compagnon d'œuvre, ou encore collaborateur. Si seulement nous pensons que nous sommes tous là pour Dieu, co-ouvrier, nous travaillons avec Dieu, nous sommes des collaborateurs. Et vous savez, Dieu, il cherche des collaborateurs. Ézéchiel, il dit, je cherche un homme qui se mette en avant, pour qu'il puisse, auquel je puisse faire confiance et qu'il puisse avertir les gens. Et il a dit, j'étais établi en tant que sentinelle. Nous sommes des sentinelles. Nous devons dire aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, nous devons leur dire, attention, bientôt le Seigneur il va revenir. Et si vous êtes dans l'état dans lequel vous êtes perdu, vous allez subir la colère de Dieu. Répentez-vous, tournez-vous vers le Seigneur. Nous les avertissons. Ézéchiel disait, je t'ai fait sentinelle, tu dois avertir le peuple lorsque l'ennemi arrive pour qu'il puisse mettre à l'abri. C'est ça que nous faisons. C'est ça, nous sommes des sentinelles. Et vous savez, l'Église, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez les jeux et Tetris. Hein? C'est tous des figures qui s'encastrent les unes avec les autres pour former un mur. Il faut choisir la figure. C'est un peu comme les puzzles. Là. Hein? Vous savez que lorsqu'on construit une image avec des puzzles, là, on met les pièces, là, il y a 1000 pièces, il faut les mettre. L'Église, c'est comme ça. Hein? Il nous a dit que c'est le Seigneur qui rajoute. Et c'est le Seigneur qui met les gens dans l'Église. Et donc, nous devons être tous unis, nous devons nous encastrer les uns sur les autres. Pourquoi? On gagne individuellement, mais on gagne ensemble.
Et ça veut dire que toutes les pièces sont importantes.
Exactement. Pourquoi est-ce qu'on est des gagnants? Parce qu'on a Christ. Si on marche par l'Esprit, alors, nous sommes des gagnants. Et c'est ça que Paul le dit. Toutes ces choses-là, je voudrais vous le dire, parce que j'aimerais que vous soyez mûrs, que vous ayez de la maturité, pour que vous puissiez être des instruments entre les mains de Dieu. Mais si vous restez comme ça, vous ne pourrez pas. Je ne peux pas vous dire toutes ces choses-là, parce que vous êtes toujours dirigés par l'Esprit. Mais j'aimerais bien, car je veux que l'œuvre de Dieu avance. C'est ça que Paul le dit. On gagne collectivement si on est à la bonne place. Dieu, il place chacun à chaque place. Et c'est à cette place que nous devons travailler. Et pas se dire, je me sens plus bien dans cette place, je vais prendre la place d'Olivier. Non, c'est Dieu qui nous place. Et si nous savons que Dieu il nous a placés, nous restons là jusqu'au jour où Dieu il va nous prendre, un peu comme il a fait avec Philippe. Hein? Il était dans le désert, qu'il était en Samarie, qu'il évangélisait, il avait des fruits, et l'Esprit, il l'a pris et il l'a ramené dans un désert. Hein, Philippe, il a dit, mais pourquoi tu me fais ça, Seigneur? J'ai travaillé bien pour toi. Il avait des convertis. Pourquoi tu m'amènes dans un désert? Il n'y a personne. Moi, je suis un évangéliste. Et qu'est-ce qu'il arrive loin? Il arrive en chariot avec l'eunuque, l'Éthiopien. Et il faisait quoi? Il lisait la Bible. Et Philippe lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il a dit, il n'y a personne pour m'expliquer, comment veux-tu que je comprenne? Et Philippe lui a expliqué.
Je
ne
sais pas si vous pouvez me donner le verset encore, le verset 2. Comme ça.
Il dit quoi ce verset 2?
Oui. Comme il a dit, je vous ai donné du lait, nom de la Trinité solide, le nom de la Trinité solide, car vous ne pouvez pas la supporter.
Oui.
Vous pouvez m'expliquer un peu.
Et ça, encore un peu, c'est le résultat qu'ils étaient des chrétiens, mais ils se laissaient diriger par leur chair, par leur connaissance, par leur intelligence, par les dons qu'il y avait dans cette église. Ce que Paul l'a dit, il ne vous manque aucun don. Mais au lieu de les mettre au service de l'église, au service de Dieu, ils le mettaient à leur propre service. Et donc, si on est charnel, on ne grandit pas. S'il y a division, s'il y a jalousie, on ne grandit pas. Et donc, on est des enfants de Dieu, et aux enfants de Dieu, on donne toujours les B.A.B. de la nouvelle naissance. Voilà, vous êtes nés de nouveau, il faut que vous changez de vie, il faut que vous avanciez différemment. Et voilà, on répète toujours la même chose, mais on ne leur dit jamais les choses plus concrètes, plus mûres, pour qu'ils puissent eux-mêmes grandir. C'est ça que Paul désire dire. Parce que c'est une église qui s'est croyée. Mais Paul, il leur dit, mais vous n'êtes rien. Vous êtes juste des serviteurs. Marchez, vous voulez grandir. Marchez selon l'esprit et pas selon la chair. Parce que si vous continuez à marcher comme ça, il n'y aura pas de fruits dans votre église. Et s'il n'y a pas de fruits, c'est qu'il n'y a pas Christ. Parce que si vous êtes attaché à Christ, obligé de porter du fruit. Obligé. C'est lorsqu'on se laisse diriger par la chair qu'on s'occupe que de nous, pas des autres. On fait seulement notre petit travail, on va au culte une fois par semaine, et voilà, on a fait notre devoir. Mais Dieu ne nous demande pas ça.
Je disais tout à l'heure sur les Turquiens, là, dans les années 70 et 80, il y a un frère donc en Christ, donc espagnol, qui est devenu aveugle, qui se demandait bien pourquoi, il s'est rendu compte que aucune évangélisation n'était prévue pour les aveugles en Espagne. Et il a dit lui-même, si j'étais pas devenu aveugle, je m'en serais jamais rendu compte. Et donc il a vu cette cécité qui est un handicap comme une grâce. Bon, il faut beaucoup de foi.
C'est ça. Et c'est ça que Paul il dit aux Corinthiens dans toute cette première épître. Il les corrige parce qu'ils se croyaient. Et Paul le corrige, il a dit si, non, c'est pas, vous n'êtes rien. Vous croyez que vous êtes quelque chose, mais vous n'êtes rien. Comme il disait Jean à l'Apocalypse, hein, il lui disait, tu crois être vivant, mais tu es mort. Et c'est ça, il a dit, on est 150, 200, c'est bon là. Mais il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de connaissance, les gens ils ne se connaissent même pas là. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas de, voilà, c'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité. Dieu il a dit, allez dans le monde et faites des disciples. Il n'a pas dit de faire du nombre. Mais des disciples, et chaque disciple, il va et il crée d'autres disciples. Et c'est comme ça que la parole, elle peut se propager. Voilà, que le Seigneur nous aide à accomplir ces choses-là.